Bonjour Alexandre, chef analyste d'IG. Je le disais en préambule, le Nasdaq a perdu 6,3% sur les quatre dernières séances. Oui. Donc on est sur un repli assez significatif, même si quand on dézoome, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Comment vous expliquez un petit peu ce revirement? Alors c'est vrai qu'il y a une semaine ou presque, on a eu les résultats de Broadcom, le titre avait perdu 10%. Bon, hier c'est Oracle qui était à moins 10 là aussi après la publication de ces résultats. Est-ce qu'il y a une forme un petit peu de lassitude de ces augmentations de capital, que ce soit sur SpaceX, que ce soit sur Oracle, encore hier qui dit on va lever 20 milliards de plus, Supermicro 7 milliards, enfin bref, tout le monde en ce moment souhaite de lever de l'argent pour l'IA.
C'est un peu la grosse différence par rapport au cycle qu'on a observé pendant les années précédentes. En fait, on était dans un schéma depuis 2000 grosso modo de rachat d'actions récurrent de ces groupes. À chaque fois qu'ils annonçaient leurs résultats, on était sur des annonces. Alors les dividendes progressaient relativement peu, ça c'est pas le fort de la tech parce que c'est des boîtes de croissance, mais en revanche ce qui était très souvent annoncé c'était des niveaux de rachat d'actions. Donc on diminue le flottant, on diminue le nombre d'actions en circulation, et ça forcément c'est favorable aux actionnaires, ça renforce les bénéfices par action. Et ce qu'on observe, et vous l'avez bien décrit, depuis quelques semaines maintenant, c'est des annonces de l'autre côté, à la fois Alphabet qui explique qu'ils vont émettre pour 80-85 milliards d'actions nouvelles, et puis des sources qui laissent entendre que Meta pourrait faire pareil également, donc pour financer le développement de l'IA. Donc cette fois-ci, c'est plus seulement un recours aux fonds propres, au cash, c'est plus seulement un recours à la dette classique, c'est-à-dire par émission obligataire. Désormais, on voit que les méga-caps américaines parlent très clairement d'émettre des actions nouvelles, donc c'est l'opposé de rachat d'actions. En fait, vous diluez un petit peu l'actionnariat existant. Et vous l'avez décrit, c'est à la fois, c'est un mix en fait, cette correction là, elle n'est pas délirante. Rappelons que Nasdaq il a pris plus de 30% en deux mois et demi, et les semi-conducteurs, l'indice des semi-conducteurs a doublé en deux mois et demi. Donc avoir 6, même 10% de baisse derrière ne serait pas dramatique, mais c'est effectivement à la fois Broadcom, des résultats qui sont très légèrement en dessous des attentes, ces émissions d'actions nouvelles, la question des taux aussi qui reste toujours élevée, l'incertitude géopolitique qui pèse un petit peu, et puis probablement certains font un peu de place effectivement dans leur ligne pour accueillir la gargantuesque IPO de SpaceX qui va nécessiter de la liquidité. Donc il est aussi possible qu'on ait quelques arbitrages au sein des portefeuilles un petit peu en amont de cette introduction en bourse, avec à l'horizon des Anthropic et des OpenAI également.
En tout cas, l'Europe ces derniers jours surperforme par rapport aux États-Unis. L'Europe a été pénalisée par l'absence de grandes valeurs technologiques. Bon là, ces derniers temps, c'est une force. Typiquement, le CAC 40 gagne 0,3 alors que hier Wall Street a perdu 2. Donc on est quand même sur un écart assez important. Maintenant, la question c'est c'est quoi le relais C'est quoi le relais en dehors de l'intelligence artificielle?
Alors, le premier relais, il va être d'ordre géopolitique. C'est-à-dire qu'on voit tout à fait en Europe, et tous les indicateurs se sont retournés exactement au moment du début de la guerre en Iran. Quand vous regardiez les indices de confiance en France, consommateurs par exemple, les indices en Allemagne, le ZIU, l'IFO, quand vous regardez les PMI aussi, ces fameux indices d'activité en zone euro, regardez bien sur les 10 derniers mois, vous allez voir que la cassure à la baisse est très nette à partir de mars, avril, mai. Cette partie liée au début de la guerre en Iran. Et si vous regardez les indices européens, c'est ça qui les a aussi empêchés d'aller chercher de nouveaux records, contrairement aux indices américains beaucoup plus sensibles à la tech. En Europe, on a des valeurs effectivement plus sensibles à l'énergie, l'Allemagne aussi. Et je dirais que donc, le premier gros catalyseur pour l'Europe sera la détente du conflit géopolitique, parce que vous allez avoir une réaction en chaîne positive qui se créera à ce moment-là. Détente géopolitique égale pétrole qui retombe, égale taux qui se détendent, égale banque centrale qui diminue la rhétorique agressive par rapport aux hausses de taux, et puis également vous aurez une diminution du coût de l'argent. Donc on verra, je pense, de manière instantanée, si la géopolitique se détend réellement avec de vrais accords et que le pétrole retombe bien sous les 80 $. Il ne faut pas rester au-dessus de 80, mais entre 70 et 80, vous verrez que les indices européens à ce moment-là, d'un seul coup, auront des réactions beaucoup plus positives, parce que c'est vraiment ça le frein des derniers mois. Et puis aussi, ne pas oublier que l'Europe, alors c'est historique, on sait que l'Europe est moins chère que les marchés américain en termes de valorisation, mais si vous prenez le Stock 600, donc l'indice élargi des valeurs européennes, il se paie 15 fois les bénéfices anticipés, c'est-à-dire exactement sa moyenne de valorisation des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on n'a pas un marché qu'on peut considérer comme cher en Europe. Il n'est pas non plus donné, mais il n'est pas cher. Alors que les marchés américains, eux, par rapport à leur moyenne de valorisation, sont assez nettement au-dessus. Donc l'Europe n'attend pas grand-chose en fait en termes de catalyseur, et la géopolitique sera le principal d'entre eux, je pense.
La BCE, cet après-midi, qui a probablement remonté ses taux, en tout cas c'est très largement intégré par le marché, qui anticipe au moins 70 points en termes de resserrement monétaire. Est-ce que c'est un sujet ou non, au final, c'est pas un sujet et au final, tout est dans les cours déjà.
C'est un vrai sujet. Une hausse de taux n'est pas un très gros sujet à court terme parce qu'effectivement, on a une inflation sous-jacente en zone euro, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie, qui remontait à 2,5%. Donc là-dessus, on a un taux de dépôt de la BCE qui est à 2%, bah, le ramener à 2,25 avec une inflation à 2,5, il n'y a pas, voilà, c'est tout à fait correct comme politique monétaire. Ce qui est plus problématique et ce qu'il ne faudra pas faire, et espérons que l'Iran sera réglé ici là, c'est la deuxième hausse de taux potentiellement en septembre, voire la troisième d'ici la fin de l'année. Le marché aujourd'hui, si on regarde les anticipations, les probabilités de marché, c'est 55% de probabilité pour une hausse en septembre, ce qui n'est pas négligeable. Et on demandait à l'instant qu'est-ce qui pourrait faire bouger un peu les indices européens. Typiquement ça, des anticipations de hausse de taux qui redescendent en dessous des 50% pour septembre. Et ça, ça va être lié à quoi? Ça va être lié exclusivement à ce qu'on va voir sur les prix de l'énergie et sur l'évolution de la géopolitique. Donc, la réunion du jour, elle va être intéressante. On sait qu'il y aura une hausse de taux, donc ça, c'est acquis. C'est vraiment le discours de Christine Lagarde qui va être intéressant. C'est le communiqué de la BCE qui va être intéressant. Donc, c'est vraiment les projections, en fait, qui vont nous intéresser aujourd'hui, plus que le résultat de la réunion où on sait qu'il y aura hausse de taux.
On est dans une séquence banque centrale. Mercredi prochain, oui. La Fed. Hier, on a eu des données d'inflation aux États-Unis. L'inflation qui est sur des plus hauts de 2023, oui. Au-delà des 4%, 4,2. Alors bien sûr, les prix de l'énergie, notamment l'essence, plus 40% hein, au mois de mai. Donc forcément, ça a pris une place importante dans cette inflation aux États-Unis. Alors Donald Trump a toujours l'air de surprendre. Hein. Hier, il a dit qu'il aime l'inflation. Ce sont des super chiffres. Alors bon, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il faut voir là le mania de l'immobilier qui parle et donc qui trouve que l'inflation, c'est super? En attendant, il essaye de rassurer à l'approche des midterms, bien sûr. Ouais. Après, il dit, vous inquiétez pas, ça va tomber comme une pierre une fois que la guerre sera finie. Bon, en attendant, 4%, c'est pas neutre.
Voilà. Alors, là où il n'a pas tort, c'est qu'effectivement, je pense qu'effectivement, une fois que la guerre sera terminée, le pétrole retombera. On voit aussi qu'aux États-Unis, il y a eu des effets. Si on les a en Europe, on les a évidemment aussi aux États-Unis, ces effets liés au pétrole. Mais le problème des États-Unis, que nous n'avions pas en Europe, c'est qu'avant la guerre en Iran, vous aviez déjà une inflation qui était toujours assez nettement au-dessus de l'objectif. Alors, en zone euro, il y aurait de l'inflation avant l'Iran. On est effectif, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est ça le problème américain, c'est que leur économie, alors c'est pas un problème, mais ils ont une économie qui est plus résiliente, l'inflation s'est maintenue déjà avant la guerre en Iran, et puis il y a aussi l'effet des taxes douanières. Ça, ils n'en parlent pas trop, mais beaucoup de banques américaines, JP Morgan ou Goldman Sachs, estiment que les tarifs douaniers ajoutent actuellement entre 0,5 et 0,7% à l'inflation sous-jacente. Ce qui est beaucoup, donc, hein, c'est grosso modo, s'il n'y avait pas les tarifs douaniers et pas la guerre en Iran, eh bien, la Fed serait toujours en train de discuter et aurait même probablement peut-être réalisé une baisse de taux là au printemps. Donc on voit qu'il y a deux gros paramètres pour l'économie américaine. Effectivement, les taxes douanières, il faut que ces effets s'estompent. Et puis, la fin de la guerre en Iran. Et à ce moment-là, oui, Kevin Warsh reparlera de baisse de taux. Mais Donald Trump, effectivement, il essaie de minorer l'inflation, mais 4,2% d'inflation globale, rendez-vous compte. Et il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'inflation est très forte, les salaires réels aux États-Unis, c'est-à-dire votre pouvoir d'achat réel, il est retombé négatif pour la première fois. C'est-à-dire que les salaires qui progresse de 3 et quelques pourcents avec une inflation à 4%, ben c'est la première fois depuis plusieurs années que vous avez un salaire réel qui redevient négatif aux États-Unis, ce qui implique donc, ce qui signifie une perte de pouvoir d'achat pour les Américains.
Au milieu de tout ça, aujourd'hui, quel est votre biais, Alexandre Baradez, sur le marché action en termes d'allocation de secteurs? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Alors, pour moi, il y a trois strates, si vous voulez. Les marchés américains assez chers et portés par la tech, donc en ce moment, je ne suis pas très chaud pour y aller sur ces niveaux de valorisation. L'Europe me paraît attractive sans attendre de miracle à court terme, il y a 15 fois les bénéfices anticipés, avec encore une fois un début d'année que c'était plutôt bien passé pour l'Europe. Une fois que la guerre en Iran sera passée, les nuages vraiment vont se dégager et il sera temps d'y aller. Et puis la troisième strate, c'est la partie émergente, mais pas les émergents incluant la tech. C'est les émergents, surtout Chine, en fait, voilà. Voilà, plus trop émergent aujourd'hui, mais je trouve que la Chine est vraiment à des niveaux de prix qui sont plus qu'attractifs actuellement, sur des gros indices type Hang Seng notamment. La tech chinoise ne vaut pas grand-chose en bourse aujourd'hui. Donc voilà, il y a un marché comme ça. Autant la Corée du Sud, ça a flambé avec les Samsung et autres, autant les actions chinoises n'ont pas profité hein, du boom qu'on a eu ces deux derniers mois. Donc je dirais que voilà, de manière très discrète, mais la Chine reste attractive. Et sur les États-Unis, voilà, je méfie un peu de toutes ces annonces IPO ou autres, et surtout sur la tech que je trouve clairement chère en ce moment.
Merci beaucoup, Alexandre Baradez, d'avoir accompagné ce matin en plateau, chef analyste d'IG.